Le journal, bonjour Christelle Rebière.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
De restrictions en confinement, comment affronter le Covid? Les Pays-Bas se reconfinent pour 4 semaines et en France, eh bien, on réfléchit à l'idée d'instaurer un pass sanitaire dans les entreprises. On y revient après les autres titres, Christelle.
Pouvoir prendre le nom de sa mère, si on le souhaite, en évitant des années de galères administratives. Une proposition de loi entend donner une nouvelle liberté à notre identité. C'est une information France Inter. Des milliers de civils morts par erreur. Les frappes de drones menées par les États-Unis contre les groupes djihadistes au Proche-Orient n'avaient rien de chirurgical. Le New York Times a mené l'enquête. Les handballeuses françaises au bord du doublé, championne olympique et peut-être cet après-midi championne du monde la même année. Le journal des sports avec Laetitia Bernard. Dans notre calendrier de l'Avent, un livre qui a du chien, L'os de Lebowski. Et puis le réveillon de Noël, pas toujours un cadeau pour les célibataires, vous saurez pourquoi.
Et à 8h20, notre invité, le journaliste et écrivain Éric Fautorino. Il est l'auteur de La pêche du jour. C'est une nouvelle sur notre rapport aux migrants qui meurent en Méditerranée. Une fable parue cette semaine dans l'hebdomadaire Le 1.
France Inter.
Le Covid a bien douché notre enthousiasme. On pensait passer des fêtes tranquilles et les variants menacent de tout gâcher. D'après le ministère de la Santé, on arrivait au pic de la cinquième vague, mais depuis une semaine, le nombre de cas a réaugmenté de 8 à 10%, signe que le variant Omicron est là, d'où les mesures de restriction annoncées sur le pass vaccinal. Et les vacanciers croisés hier en gare de Rennes en avaient presque la gueule de bois. Maxime Glorieux.
Ce bruit, c'est celui des vacances et son convoi de valises en gare de Rennes. Mais cette année, les retrouvailles sont difficiles à savourer pour Alex, 21 ans.
Honnêtement, c'est un peu compliqué parce que effectivement, on parle du variant Omicron, tout ça qui est plus contagieux et tout. Donc, effectivement, il y a un risque. Maintenant, là, ça va faire pratiquement un an que j'ai pas eu ma famille. Bon, bah, les revoir, ça va me faire du bien en fait.
Direction la montagne pour Alice et sa fille de 13 ans. Un grand bol d'air pour oublier le Covid.
Ça fait des années qu'on n'a pas été skier, donc la première pour la grande. On verra bien sur place. On espère être confiné là-bas et qu'on rentre pas.
Pas de confinement à l'horizon, mais un sentiment de déjà-vu pour Martine et René.
J'ai l'impression d'être revenu un an en arrière, là. Maintenant qu'on est vacciné, on se retrouve avec le même problème.
Oui, mais donc, c'est vrai qu'on ne fait pas de forme grave. D'où l'intérêt de se faire vacciner.
Ah oui, non.
L'ambiance n'est pas là, c'est anxieux.
Les plus jeunes comptent sur la troisième dose reçue par leurs grands-parents. Adrien, 20 ans, part donc l'esprit tranquille.
Moi, mes grands-parents, ils sont déjà vaccinés une troisième dose. Là, je pense, je sais pas si c'est vraiment nécessaire que je fasse un test. Noël, c'est les gâteaux, la famille et les engueulades.
Surtout lorsque le Covid s'invite à table pour les fêtes de Noël.
Reportage Maxime Glorieux de France Bleu Armorique. Un pass vaccinal pour contraindre les plus rétifs à se faire vacciner. Il sera instauré au plus tôt fin janvier. Et pourquoi pas aussi un pass sanitaire dans les entreprises. Actuellement, 2 millions de salariés y sont soumis, ceux qui travaillent au contact avec le public, mais il pourrait être généralisé. La ministre du Travail évoquera le sujet dès demain avec les partenaires sociaux. François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, s'inquiète de sa mise en œuvre.
Si dans la vie de tous les jours et dans les lieux publics, il faut avoir le pass vaccinal et que dans le milieu de l'entreprise, il faut un pass sanitaire nécessaire, il faut que ce pass sanitaire ait au moins une validité au-delà de 24 heures. Vous voyez l'employeur qui, chaque jour, chaque matin, doit vérifier, scanner, s'il n'a pas la liste de ceux qui ont ce pass sanitaire ou ce pass vaccinal, c'est un petit peu compliqué dans la pratique. Deuxièmement, il faut trouver des solutions pour tous les salariés qui ne passent pas systématiquement par l'entreprise. Par exemple, les personnes qui font du service à la personne, vous avez la propreté, vous avez dans le bâtiment. Donc comment faire en sorte de pouvoir contrôler ces salariés? Au-delà de tout ça, le choix de se vacciner ou pas, c'est un choix d'ordre personnel. L'employeur n'est absolument pas responsable. Donc bien évidemment, s'il faut en passer par un pass sanitaire au sein de l'entreprise, pourquoi pas, mais à ce moment-là, eh bien posons-nous la question comment faciliter la vie à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.
François Asselin, interrogé par nos confrères de France Info. Allons voir comment ça se passe en Allemagne. Depuis presque un mois, les personnes non vaccinées doivent se faire tester tous les jours pour se rendre au travail. Et cette mesure, Nathalie Versigneux, a renforcé le mouvement anti-vax.
De longues queues le matin devant les centres de dépistage qui ont de nouveau poussé comme des champignons dans les villes allemandes. Depuis le 24 novembre, les personnes non vaccinées doivent présenter chaque matin un test négatif pour se rendre au travail, soit près d'un salarié sur trois, puisque moins de 70% des adultes sont vaccinés dans le pays. C'est à l'employeur d'effectuer les contrôles. La mesure est globalement approuvée par la population, mais c'est aussi depuis le 24 novembre que c'est radicaliser le mouvement anti-vax dans le pays. Pour nombre de réfractaires, déjà exclus des bars, des restaurants et des magasins non essentiels, la 3G au travail, comme on appelle le test obligatoire en Allemagne, c'est tout simplement la mesure de trop qui pousse chaque semaine des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Un peu partout, on tente d'endiguer la déferlante Omicron. Les Pays-Bas se reconfinent jusqu'au 14 janvier. Tout est fermé. Les Hollandais sont priés de réveillonner à 4 personnes maximum. Le Danemark ferme pour un mois ses salles de spectacle et ses cinémas. Le maire de Londres lance une procédure d'alerte. À New York, on redoute de redevenir une ville fantôme comme en 2020.
Une question à présent, Christelle. Et si on changeait notre nom de famille ?
Oui, alors d'habitude, c'est un parcours du combattant administratif. Mais France Inter vous le révèle ce matin, des députés de la majorité s'apprête à déposer une proposition de loi qui sera examinée en janvier. L'idée, c'est de simplifier les procédures pour ceux qui voudraient prendre le nom de leur mère, que ce soit durant l'enfance pour le nom d'usage ou à leur majorité pour le nom de naissance. Expliquez-nous, Laurélie Carive.
Aujourd'hui, si passé 18 ans, vous voulez changer de nom, il faut que vous prouviez l'intérêt légitime de votre démarche. Le ministère de la Justice reçoit chaque année 2000 demandes de personnes qui souhaitent, par exemple, prendre le nom de leur mère ou l'accoler à celui de leur père. C'est ainsi que Bettina a lancé une requête il y a près de 4 ans. À son nom de naissance, elle voulait ajouter celui de sa mère pour pouvoir notamment le transmettre à ses enfants.
Moi, en l'occurrence, j'ai pas été élevée par mon papa, j'ai été élevée par ma maman, j'avais envie de porter son nom. J'ai fait des démarches et puis j'ai reçu une réponse un an après qui m'indiquait que c'était refusé. C'était assez douloureux pour être honnête, parce que ça touche à l'histoire familiale aussi et je me suis dit de quoi il se mêle exactement.
De fait, seulement un tiers des demandes obtiennent aujourd'hui satisfaction. Avec cette proposition de loi, toute personne majeure pourra, une fois dans sa vie, décider de prendre le nom de sa mère, de son père ou d'adjoindre les deux dans l'ordre qui lui plaira. Il suffira pour ça de remplir un formulaire en mairie. Quant aux enfants, il sera aussi possible de changer très simplement leur nom d'usage, soit en le remplaçant par celui de l'autre parent, soit en accolant les deux patronyme, une façon de résoudre certaines situations complexes en cas de séparation où certaines mères se retrouvent à devoir présenter leur livret de famille pour prouver leur lien de filiation.
Laurélie Carive, à l'étranger, un nouveau coup dur pour Boris Johnson. Son ministre du Brexit, David Frost, l'un de ses soutiens les plus précieux, le lâche en particulier à cause de sa gestion de la pandémie. Le Premier ministre est déjà englué dans plusieurs scandales et de plus en plus contesté jusque dans son propre parti. Après les frappes chirurgicales de la guerre du Golfe, les frappes de précision mise en cause aux États-Unis, et c'est un scandale que soulève aujourd'hui le New York Times dans une enquête choc. Depuis 2014, l'armée américaine privilégie les frappes de drones en Syrie, en Irak, en Afghanistan pour lutter contre les groupes djihadistes. Mais la guerre propre est un mythe et des milliers de civils ont été tués par erreur. À New York, Loïc Loury.
Le 19 juillet 2016, dans le nord de la Syrie, les Américains croient viser des zones de transit du groupe État islamique et 85 combattants, pensent-ils, sont abattus. Il s'agissait en fait de fermiers, 120 personnes au total venues chercher refuge loin du front. Des exemples comme celui-ci, le New York Times en décrit plusieurs. Le journal se fonde sur 1300 rapports du Pentagone obtenus au prix de plusieurs procès. Bilan officiel, 50 000 frappes menées en 5 ans en Afghanistan, en Syrie, et en Irak et 1600 victimes collatérales environ, mais jamais une seule faute ni sanction disciplinaire. Dans cette guerre des drones, opacité et impunité sont les maîtres mots, dit le journal. Il assure que le nombre de pertes civiles reconnues est nettement sous-estimé. Erreurs d'identification, images de mauvaise qualité, surveillance trop courte, les raisons de ces drames sont multiples. Même avec la meilleure technologie du monde, dit le porte-parole du commandement central, des erreurs se produisent. New York, que Loïc Loury, France Inter.
Et c'est le moment d'ouvrir une case, une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent.
Des idées cadeaux concoctées par le service culture de France Inter. Aujourd'hui, un livre dont le héros est un chien. L'os de Lewowski de Vincent Maillard. Il a reçu cette année le prix 30 millions d'amis, surnommé le Goncourt des animaux. Une écriture alerte pour une parodie de roman policier très distrayante, Ilana Morioussef.
Vincent Maillard dit qu'il a écrit cette histoire en regardant son chien dormir. Un faux polar dont le héros involontaire est un chien nommé d'après un film des frères Cohen. Vincent Maillard.
Ce Lebowski, c'est un vrai personnage. Ce chien, c'est pas simplement un chien, c'est un chien avec un caractère particulier, comme tous les animaux d'ailleurs, et que c'est ce caractère qui en fait un vrai personnage de roman. Je crois que notre contact avec les animaux en ce moment est primordial, et que d'une certaine manière, les animaux domestiques sont notre première marche pour essayer de renouer un peu avec... avec la nature en général, avec les animaux, et que c'est quelque chose de très important.
L'os de Lebowski est un vrai roman qui se joue des codes du roman policier. Il y a un jardinier qui disparaît, un rédacteur en chef de télévision, une prof d'économie et le chien, Lebowski, dont le caractère a conquis la romancière Irène Frein, membre du jury.
Il est paresseux et casse-pied, comme peuvent être nos chiens ou nos chats. Hein. Et il y a toute une intrigue policière. Elle est très savamment construite, en même temps qu'elle est pleine de dérision, d'humour et de rebondissement. Donc on suit jusqu'au moment où le chien va en quelque sorte dresser l'oreille et on va découvrir beaucoup de choses grâce au chien.
Le tout raconté sur le ton de la tendresse, de l'humour et d'un brin de mélancolie.
Le réveillon de Noël, c'est dans 5 dodos, les enfants comptent, mais les adultes, eux, redoutent parfois ce moment de congratulation familiale. Entre les huîtres et la bûche, la conversation peut mal tourner, et pas seulement à cause de la politique. Ainsi, un célibataire sur 2, d'après un sondage YouGov, redoute des questions intimes, au point que 16% préfèrent mentir et s'inventer une relation pour ne pas s'étouffer dès l'apéro. Julien Morcelli.
Entre deux coupes de champagne au réveillon, Romane, interne en médecine à Paris, sait déjà à quoi s'attendre.
Bah, tu nous as ramené personne cette année, mais ça va venir, hein. C'est la question que j'ai pas forcément envie d'entendre parce que pas envie de me justifier.
Pour Justine, étudiante à Lannion, c'est de se retrouver toute seule à table qui lui met la pression.
Mes deux grandes sœurs sont en couple et dès mes 17 ans, mon père m'a dit attention, c'est à cet âge-là que j'ai rencontré ta mère et tout, donc bah, en général, j'ai rien à raconter, y a rien qui se passe. Dans tous les cas, la société, elle est faite que le but ultime, c'est d'être en couple. Ça nous passe tout.
Du coup, elle poursuit sa quête sur Internet et elle n'est pas toute seule.
On voit une vraie augmentation des inscriptions et des téléchargements des applications de rencontres.
Stéphanie Gabriel, directrice du site de rencontres Badou.
On le sent à partir du 26 décembre à peu près. Il y a un pic sans précédent dans toute l'année, c'est le pic du mois de janvier. C'est vraiment, ça y est, je trouvais quelqu'un.
Sauf que cette recherche de l'amour à tout prix peut effrayer un partenaire potentiel. Véronique Cohn est psychologue, spécialiste des relations amoureuses.
Ça accentue l'effet de détresse, de ne pas faire comme les autres, de se comparer, parce qu'elles attendent beaucoup trop le prince charmant ou la personne sérieuse. Il y a toujours beaucoup de déceptions parce que la réalité n'est pas en fonction des attentes.
Depuis la fin du premier confinement en mai 2020, près d'un quart des Français ont trouvé un partenaire sur une application de rencontre.
Et c'est un bon business. Les célibataires ont dépensé en moyenne cette année 128 euros sur des sites de rencontres. Le centre Pompidou vient de perdre l'un de ses créateurs. L'architecte britannique Richard Rogers est mort à l'âge de 88 ans. Renzo Piano et lui avaient eu l'idée de créer ce bâtiment retourné, c'est-à-dire de mettre à l'extérieur ce qui aurait dû être à l'intérieur, d'où l'abondance de tuyaux et de métal.
Et nous, on va bâtir un journal des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Ah, elles ont hâte de jouer, les handballeuses françaises.
Plus que quelques heures avant la finale du championnat du monde en Espagne face à la Norvège. La Norvège, un adversaire pas comme les autres, que les Bleus connaissent bien, parfois à leurs dépens. Dernier duel en date, la finale de l'Euro 2020, gagnée par les Norvégiennes. Sauf que les Françaises, désormais, elles sont championnes olympiques en titre et elles vont réaliser un doublé splendide et inédit si elles deviennent championnes du monde tout à l'heure. Bref, la capitaine des Bleus, Coralie Lasource, sait parfaitement ce qu'il y a à faire tout à l'heure.
En arrivant ici, on savait pas où on allait. On sait où on est aujourd'hui, on sait où on veut aller. Et pour moi, c'est le plus important en fait. On s'est pas mis de pression, ça nous a plutôt bien réussi. Et maintenant, on est à une heure de décrocher une médaille d'or. Et pendant une heure, on va tout donner. Même s'il y a moins d'énergie et plus de fatigue, on donnera tout parce qu'on a vraiment envie de décrocher cette médaille, de l'avoir autour du cou et de pouvoir rentrer à la maison avec.
Et cette finale de championnat du monde entre la France et la Norvège se jouera à partir de 17h30.
La Coupe de France de football, cette fois, coup de chapeau au club de Cannes.
Une équipe qui évolue en National 3 et qui a réussi à sortir Dijon, pensionnaire de Ligue 2 au tir au but hier soir. Suite et fin des 32e de finale aujourd'hui avec 15 rencontres, dont à 21h, l'Entente Fény-Aulnois, club de National 3, qui va se frotter quand même au Paris Saint-Germain et à ses stars à Valenciennes devant 24 4 000 spectateurs.
5 divisions d'écart entre les deux. Allez, des épreuves spectaculaires au programme de la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand aujourd'hui.
Après la très belle journée d'hier dans le clan tricolore, marquée, on le rappelle, par la deuxième place de Julia Simon et la victoire de Quentin Fillon-Maillet sur les poursuites, ce sont les mass starts féminines et masculines qu'on va suivre aujourd'hui. Des épreuves spectaculaires parce qu'elles ont un départ groupé, seuls les meilleurs y participent et puis ce sont aussi les premières mass starts de la saison. Bref, le public a hâte, Jérôme Val.
C'est le dessert du dimanche très attendu. Mais attention, tout le monde n'y a pas droit. Seuls les 30 meilleurs mondiaux peuvent y goûter. Et ça devient un objectif pour Julia Simon, deuxième de la poursuite féminine hier.
Je trouve que c'est une belle récompense. Quand j'étais jeune, les premières Coupes du Monde, c'était quand je voulais me sélectionner pour la Mastart, c'était un objectif. Et je trouve que c'est des belles courses.
Contrairement aux autres épreuves individuelles, tout le monde part en même temps, ce qui donne des conditions de course très particulières, détaille le biathlète français Simon Détieux.
Il y a un peu l'adrénaline du premier tour, il y a cette excitation qui est intéressante, je trouve. C'est une course qui m'a bien réussi, en tout cas par le passé. Et c'est une course que j'apprécie, donc voilà, j'ai hâte parce que c'est sympa. Et ça manque un petit peu. C'est vrai qu'on en attend 4 semaines avant d'en faire une sur la Coupe du Monde, donc l'envie est là.
Première mass start de la saison, mais ultime course de l'année 2021. Cela fait 4 semaines que tout s'enchaîne et ce sera un facteur clé, fait remarquer Fabien Claude.
Ici, on sait, c'est une mass start de costaud, la 3 bornes, elle est dure, donc falloir s'accrocher avec ce qui nous reste et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans la tête, donc full gaz pour demain.
Plein gaz donc pour une course qui va se dérouler comme hier devant 20 000 personnes. Le Grand Bornand, Jérôme Val, France Inter.
Donc full gaz sur la mass start. Départ féminin 12h45 et 14h45 pour les hommes.
Merci Laetitia.
Laetitia Bernard dans le journal de Christelle Rebière.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Avec une météo entre le bleu et le gris à partager, Jean-Michel Golinski.
50% de soleil et autant de gris aujourd'hui. Le bleu, on va le trouver au sud d'une ligne Charente Nord-Massif Central à Grenoble. Du soleil, mais après la levée des brouillards, c'est marqué près de la Garonne, sur les Landes et la Provence, et puis sur le Languedoc et le Roussillon, le temps sera souvent assez variable. Sur toute la moitié nord du pays, les grisailles denses dès ce matin ne vont pas lâcher prise de la journée, avec tout de même une chance de trouée pour le Finistère et le Pays Nantais et sur le relief du Nord-Est au-dessus de 500 mètres d'altitude. Les températures matinales sont positives du nord de la Loire au Nord-Est mais négatives dans la partie sud jusqu'à moins 3 degrés à Aubenas, moins 4 à Avignon sur le Lot et la Corrèze, moins 5 à Besançon. Cet après-midi, les maximales vont perdre 2 à 4 degrés dans le quart sud-ouest mais garder à peu près le même niveau qu'hier sur les autres régions.
Jean-Michel Golinski, Météo France.